arborait la coiffe juive, un chapeau pointu qui était jaune, à bord rigide, et qui était surmonté d'une queue et d'un pompon. En somme, il s'apparentait au pétasse grec que l'on voit parfois sur le chef d'Hermès, et dérivait du bonnet phrygien des forgerons. Certains, en sus, portaient sur le front et sur le bras gauche des petites boîtes en cuir, que l'on nomme téphilines, et qui renferment des psaumes sur parchemin. Dessous leurs chemises, enfin, dépassaient des franges blanches, des tzitzit, car la Torah demande que l'homme en mette aux quatre coins des vêtements dont il se couvre. Nous nous permettrons ici un court mais instructif détour que le lecteur voudra bien nous pardonner, afin de lui révéler, s'il ne le sait déjà, un fait marquant qui illustre la façon dont étaient traités les Juifs en ce temps. En effet, si nous venons de voir qu'ici certains aimaient à porter quelque habit traditionnel, il était un attribut vestimentaire qui, en revanche, leur fut imposé à tous dans la plupart des villes du royaume. Depuis le XIIIe siècle, les Juifs et tous leurs biens avaient été déclarés propriété des seigneurs sur les terres desquelles ils habitaient. Mais comme si cette spoliation n'eût point suffi, on les obligea aussi à porter un signe extérieur qui permettait de les discriminer. De fait, une ordonnance du roi Saint-Louis commanda à tous les baillis, vicomtes, sénéchaux et prévôts de France de contraindre leurs Juifs à porter sur leurs habits deux rouelles, qui étaient des cocardes jaunes, de la taille d'une main, l'une dans le dos et l'autre sur la poitrine. Ces marques humiliantes soumettaient les malheureux chaque fois qu'ils allaient en ville aux railleries et aux injures de la populace, qui peut être si sotte parfois. Si quelqu'un prenait un juif dans la rue sans cet infamant stigmate, le coupable était condamné à 10 livres d'amende et à la perte de son habit, lequel lui était soustrait au profit du dénonciateur. Il est de l'humble et triste avis du narrateur que ces sortes de choses sont amenées à se répéter dans l'histoire aussitôt que nous les oublions ou que nous feignons de ne point les reconnaître. Mais revenons-en à notre jeune Occitane. Éblouie par ce dépaysement inattendu, Alice pénétra vers le cœur de la juiverie en ouvrant de grands yeux. Là, elle observa les moultes bouchers qui exposaient sur leurs étals des viandes préparées selon la tradition, et dans une rue distincte les fromagers, car la religion, qui dit que l'on ne doit pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère, commandait que la viande et le lait ne se côtoyassent point. Ici, elle admira le calme apparent des jeunes garçons, qui, les tempes garnies de papillotes, attendaient devant une bête séphère que leurs maîtres érudits vinssent leur apprendre à lire le Talmud. Plus loin, elle vit des femmes s'engouffrer dans un bâtiment où, en sous-sol, se trouvaient des bains, que l'on appelait mikvé, et où on allait se purifier dans une eau de source une fois la semaine ou après les périodes de menstruation. Et puis, il y avait des forgerons, dans l'atelier desquels on voyait de belles hanoukias en bronze, chandeliers à 9 branches, et de belles menorahs, qui en comptaient 7. Et puis il y avait des relieurs, des copistes et des libraires qui faisaient venir des codices de toutes les parties du monde, car Bayonne attirait tant d'étrangers. Et il y avait des médecins, des tanneurs, des drapiers et des teinturiers, qui faisaient les châles de prière, les talites, des verriers et des orfèvres. Et puis ici, on vendait du vin cachère. Et puis, il y avait des bureaux de change et des usuriers. En somme, c'était un quartier commerçant comme les autres, mais qui différait par certains détails auxquels la jeune fille, se remémorant les histoires de Zacharias, ne pouvait pas être indifférente. Comme le quartier n'était pas grand, et qu'on n'avait pas le droit de l'étendre, les maisons étaient plus hautes encore que dans la ville même. Et Alice remarqua sur le linteau des portes ces petites boîtes de bois, les mezouzotes, où sont nichés des rouleaux de parchemin inscrits de prières, et dont l'une d'elles avait un jour disparu de l'entrée de la capitale où vivait le pauvre Zacharias, volé sans doute par un habitant de Béziers mal intentionné. Malgré toute cette agitation et les sourires qu'on voyait aux lèvres de leurs habitants, ces ruelles étaient sales et tristes, l'odeur pénible. Et c'était chose affligeante que de voir ces hommes parqués dans d'insalubres maisons. Toutefois, ils se consolaient sans doute de n'être pas exposés ici aux insultes et aux mauvais traitements qu'on leur réservait intramuros. Contrairement à l'accueil qu'on lui avait réservé en ville, ici, personne ne sembla s'offusquer des guenilles d'Alice. Mais elle remarqua que si les femmes lui adressaient des gestes amicaux, les hommes, eux, évitaient de croiser son regard. Elle était arrivée sur le parvis bruyant et animé de la Beth Knesset, quand une vieille femme, qui était laide, grasse et édentée, vint se poster devant elle avec un regard amusé, pendant que, tout autour d'eux,